BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Un nouveau week-end qui s'annonce plutôt sympa. Et effectivement, vous le savez, De quoi je me mêle est là. Je suis très heureux de passer cette petite heure en votre compagnie pour revenir sur toute l'actu tech de ces derniers jours. Mais pas que, parce qu'en deuxième partie de quoi je me mêle tout à l'heure, Lionel Costa nous rejoindra. Vous le savez, c'est le responsable du Labo Fnac et avec lui, on vous donnera quelques conseils à l'approche des fêtes de fin d'année pour peut-être vous offrir un PC gaming. C'est la jungle. Comment choisir la mémoire, les cartes graphiques, les écrans, enfin bref, tout ça. Lionel va nous dépatouiller et essayer de nous donner un maximum de conseils. Ce sera la deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle que vous avez aussi le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle donc en audio et en vidéo, en avant-première en podcast, puisque c'est l'une des rares émissions qui est diffusée en podcast, disponible en podcast, avant d'être diffusée à la radio sur BFM Business le samedi et le dimanche, toujours à la radio et en vidéo. Je vous présente nos deux experts qui vont débattre de l'actualité. Vous les connaissez, Mélinda Davansoula, c'est là. Salut Mélinda.
Bonjour François, bonjour Anthony.
Ravi de te retrouver, Mélinda Davansoula, The Real Action de Tech & Co. Et Anthony Morel aussi, bien sûr. Salut Anthony.
Salut François, salut Mélinda, bonjour à tous.
Et voilà, journaliste à BFM Business que vous pouvez retrouver aussi chez Estelle Denis. Ouais. Tous les jours, à l'heure du déjeuner, votre petite dose de tech à la fois sur RMC et RMC Story. Dans l'actu, on va évoquer les plans d'Apple concernant la future Apple Watch qui sortira l'année prochaine. Et a priori, ça a l'air chaud bouillant parce qu'il y a les 10 ans. Voilà, et qu'il fallait marquer le coup. On parlera aussi d'intelligence artificielle avec Elon Musk qui prévoit son chat GPT, les annonces d'OpenAI aussi, puisque ça s'est déroulé il y a quelques jours. Et on parlera aussi jeux vidéo, imaginez un film Zelda. Waouh, ça fait quand même rêver. Hein. C'est l'une des plus belles licences de jeux vidéo qui arrive au cinéma. Et puis on parlera aussi de GTA tout à l'heure. Voilà le menu. Mais pour débuter, Mélinda est venue avec. Alors, t'es un peu en retard par rapport au timing, parce qu'une paire de lunettes de soleil, on va dire
au mois de novembre,
le 10 novembre, 10, 11 novembre, t'es un peu à la bourre, je veux pas dire.
C'est un peu comme les collections de prêt-à-porter, en fait. Moi, je suis sur la.
C'est été 2024.
C'est été 2024.
C'est pour l'année prochaine.
C'est pour l'année prochaine.
Alors, oui, mais attention, c'est pas n'importe quelle lunette.
Hein. Non, déjà, modèle assez emblématique. Ceux qui peuvent nous voir à l'image auront reconnu les Wayfarers de Ray-Ban, donc modèle quand même mythique de la marque. Mais évidemment, on est dans une émission tech, donc je ne suis pas venue juste vous montrer des lunettes de soleil en temps de pluie. Ce sont les modèles connectés conçus avec Meta, Facebook. C'est la deuxième génération. Souvenez-vous, il y avait eu les Ray-Ban Stories, déjà, qui étaient exactement... Alors, on ne va pas se mentir, c'est exactement le même modèle.
C'est les mêmes, oui.
Ils se sont appuyés sur le modèle emblématique de Ray-Ban. Ils ont rajouté des caméras, enfin une caméra, et des haut-parleurs dans les branches, 5 micros pour capter la vidéo, votre voix, et surtout vous permettre de répondre à vos appels, parce que qui dit lunettes connectées, comme les montres connectées, tout ça, il faut que ce soit lié à votre smartphone, donc vous les connectez.
Tu peux les mettre ?
Tu veux que je les mette ?
Bah
regarde,
ouais.
Regarde, hop. En plus, elles ne sont pas vraiment solaires, c'est parce qu'il existe plusieurs déclinaisons. Alors, ils se sont fait un catalogue de lunettes, il y a je ne sais combien, une vingtaine de modèles, un peu toute forme. Là, je vous mets les Wayfarers, mais il y en a un petit peu d'autres.
Je te coupe 15 secondes parce que je trouve qu'elles sont réussies. On dirait presque des Wayfarers normales, en fait.
Ouais. Elles sont...
Alors que les précédentes qui étaient sorties il y a 2 ans, elles étaient un petit peu plus massives, j'avais l'impression.
Alors non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes. Il faudrait que je les mette à côté. Ouais, c'est vraiment les mêmes.
Il n'y a pas eu de miniaturisation. C'est toujours le même modèle.
C'est toujours le même modèle. Tiens, regarde, je te les passe, François.
C'est vrai qu'elles sont assez épaisses aussi, les Wayfarers. Donc, du coup, tu as la place de l'électronique. Mais voilà. C'est vrai que c'est hyper impressionnant.
Je vais à la plage, excusez-moi, je m'en vais. Hop là.
Voilà, magnifique. Là, c'est la version en plus soft. Bonjour. Tu n'es pas trop en solaire.
Vous êtes très beaux tous les deux.
J'ai les verres orange, j'ai l'impression un peu, non ?
Ouais, un peu fumé orange.
C'est peut-être la lumière qui fait ça. Hein.
Non, ça fait. Non, c'est vraiment ça. Il existe un modèle transparent, mais qui n'est pas un modèle de correction de vue. Il existe un modèle solaire intégral et il y a cette espèce d'intermédiaire qui est disponible.
Pas mal.
Alors.
Donc là, je peux te filmer, en fait.
Là, tu peux me photographier. Ça me fera bien plaisir. Tu peux me filmer et surtout la grosse.
Un peu Ali J, là, le rappeur, je sais pas si tu vois, avec le bonnet. bonnet juste.
Avec le bonnet.
C'est le mec qui a fait Borat après et tout ça.
C'est
un petit
ça.
Look, un petit look à Lee J.
Sacha Baron Cohen.
Ouais, Sacha Baron Cohen, voilà.
La grosse
allez-y,
différence...
non, mais c'est pour moi.
Mais
allez-y.
Ça, c'est pour ceux qui...
Régalez-vous, non, vous pouvez y aller, ça, c'est aucun problème.
C'est pour inciter les gens à regarder, à avoir l'image et pas seulement le son.
Ça vaut vraiment le coup. Mais bon, ça y est, c'est terminé.
Mais voilà, alors tout ça pour vous dire que...
Tu vas pas y échapper.
Tu auras le droit de te moquer comme ça.
Mais évidemment, ça fait un truc de table.
On va voir à quel rappeur tu ressembles.
Ouais.
Tout ça pour vous dire que par rapport au modèle précédent, la première génération, au-delà du changement de nom, on reprend le même modèle, on met un capteur photo de 12 mégapixels, donc c'est plutôt honnête. Ça filme en 1080. Vous pouvez faire des petites vidéos jusqu'à 60 secondes. Vidéo.
J'ai vu des vidéos, la qualité est excellente.
Alors honnêtement, moi déjà sur la première génération, je m'étais dit pour le modèle, attendez, on n'est pas sur du un iPhone ou un Samsung non, Galaxy, hein, je crois. Mais je trouve que pour la miniaturisation du
c'est
produit,
tout à fait correct.
Franchement, c'est plus que correct. Aujourd'hui, ça fait des vidéos en format plus paysage. Avant, c'est vrai que ça avait tendance à faire du portrait ou du format carré. Mais ça, vous pouvez toujours régler dans les paramètres. Et surtout, la vidéo est plutôt qualitative. Le son est plutôt correct. On est sur un produit simple. Hein, on
et va tu dire. Streams avec.
Et la grosse nouveauté de cette année, par rapport au modèle précédent, c'est la possibilité de streamer.
Ouais.
Donc, vous pouvez vraiment streamer en live votre vie. Parce que ça, on est complètement dans l'air du temps.
Non, mais
parce
par exemple, que on en parle. Tu portes tes lunettes là, on enregistre de quoi je me mêle. Tu pourrais streamer de quoi je me mêle.
Ouais.
Pour avoir un point
mais
de vue supplémentaire.
Pour avoir mon point de vue.
Pendant 30 minutes. Enfin, tu peux streamer.
Apparemment,
autant
y a pas...
de temps que
alors, j'ai pas fait toute la limite. J'avais vu, j'ai pas fait toute la limite, mais tu peux streamer. Donc, tu streames.
30 minutes, c'est pas mal.
30 minutes, ça me paraît énorme. Je testerai.
Enfin, non,
mais
je
voilà.
Sais pas.
Mais non, mais tu pourrais. Mais surtout, tu n'auras que mon point de vue.
Et pourquoi il y a deux caméras? Parce qu'il y en a une de chaque côté. C'est quoi? C'est pour.
C'est pour faire une vue, pour avoir une vue complète, je pense, sur le truc. Mais surtout, ce qui est pas mal, c'est que quand vous filmez, quand vous photographiez, ça se signale. Vous ne pouvez pas filmer ou photographier les gens par surprise.
Ouais, mais ça se signale. C'est la petite lumière. Franchement, en plein jour, ça se voit pas.
Elle se voit quand même. Moi, je trouve qu'elle se voit plutôt pas mal. Sur le premier modèle, déjà, honnêtement, si t'as tes lunettes comme ça et
en
que
novembre,
t'as un
ouais.
Et
que au mois de juillet, en plein soleil, la petite loupiote blanche sur le côté. Je suis pas sûr, moi.
T'es beau gosse avec tes lunettes, hein.
C'est vrai.
Ah ouais, ça non, franchement, depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver un truc et tout pour.
J'essaie de me casser, mais ça marche pas.
Pour te tacler, tu vois, mais un léger petit tacle.
Franchement,
j'arrive même pas.
C'est pas mal. Tu seras très bien l'été prochain.
Bon bah écoute, c'est bien. Merci les amis.
Mais non, tu honnêtement, sauf si tu filmes quelqu'un qui est à 50 mètres de toi, mais si là t'étais en train de me filmer ou de me photographier, je le verrais. T'as quand même un halo lumineux qui tourne. Je me doute bien que tes lunettes, elles sont pas normales. Hein.
Mais du coup, ça ressoulève le problème presque philosophique qui avait été soulevé par les Google Glass et par toutes ces nouvelles lunettes qui vont arriver, ces nouvelles paires de lunettes. C'est le côté quand même assez intrusif parce que même tu sais qu'on te filme, ok, t'as la petite lumière. Mais on te filme quand même, tu vois, c'est-à-dire que t'as vraiment ce truc...
Jusqu'au jour où on trouvera une manip, un hack, ou
en
quoi
plus.
Que ce soit,
non, mais c'est sûr.
Permettra de filmer sans
sûr.
Que ça s'allume. Quoi,
tu sais, finalement, quand tu filmes avec ton smartphone en douce, tu préviens
plus. Ouais, ça se voit quand même.
Enfin, sous le manteau, tu le vois, enfin, t'as plein de systèmes aujourd'hui, mais je suis d'accord.
Tu filmes ton manteau, quoi.
Non, mais quand tu...
Très, très bonne remarque. Sous le manteau, tu filmes ton manteau.
J'ai déjà essayé de filmer sous un manteau et je voyais rien.
Ça donne rien. N'essayez pas.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même... plus intrusif, tu sors
bien
ton smartphone,
sûr.
T'es comme ça, enfin,
non,
tu vois, tu c'est difficile de te masquer avec un smartphone.
Ah, tu peux, les petites caméras,
là,
aujourd'hui, tu peux.
Plage.
Mais là, regarde, tu le vois, tu le montres aux gens.
Ouais.
Mais je suis tout à fait d'accord sur le côté intrusif.
Ouais.
Après, il faut quand même avouer que la miniaturisation dans les lunettes,
ouais, ça,
donc on l'a vu après sur d'autres lunettes.
Et c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment la prouesse technologique.
Ouais,
donc, il y a deux caméras, il y a des haut-parleurs.
Ça, ouais, 5 micros pour bien capter ton son, mais
aussi pour que... Des haut-parleurs parce que tu peux écouter en Bluetooth...
la musique.
Ta musique, ouais, tes podcasts.
Alors, c'est plutôt pas mal. Moi, sur le premier modèle, j'avais essayé longuement. C'est plutôt pas mal sur la musique. Alors, ne vous attendez pas à de la réduction de bruit active. Évidemment, il n'y en a pas. Il ne faut pas être dans un environnement hyper bruyant.
Ouais.
Mais en revanche, les gens n'entendent pas votre musique.
Ah,
parce
ça, c'est
que
pas mal, ouais.
Sauf si vraiment vous mettez le son à fond, mais à écoute normale, médium.
C'est pas de la conduction osseuse, là.
C'est pas
vraiment
la conduction osseuse.
Des haut-parleurs qui
tombent. J'attends le jour où ils vont faire un modèle avec conduction osseuse. Là, on sera vraiment sur autre chose. Mais à cet endroit-là, c'est pas facile de le mettre.
Alors après, il y a un point là qu'on n'a pas abordé, mais il y a quand même une fonctionnalité qui n'est pas arrivée en France, c'est toute la partie intelligence artificielle
ouais,
des lunettes,
Meta AI.
Qui était quand même, enfin pour moi, c'est parce que
c'était le
plus intéressant. Parce
ouais.
que ça, c'est un peu, entre guillemets, une ressucée des lunettes qui existaient déjà, avec une fonction streaming en plus, bon ok, mais dans les annonces qu'ils avaient faites lors de leur présentation, c'était le fait que tu puisses, en fait, en regardant autour de toi, avoir en gros une analyse, et c'est dans les lunettes, via les branches, vont te dire, ah bah là, tu as tel monument, tu as tel point d'intérêt, te donner des indications contextuelles. Et ça, en France, on n'y a pas le droit, nous.
Parce qu'il y a une puce dedans, en fait, on ne l'a pas dit, c'est la puce Snapdragon AR1 Gen 1, donc qui est quand même une puce extrêmement sophistiquée, avancée de Qualcomm, pour les lunettes en réalité augmentée, pour tout, tout cet écosystème. Donc, en effet, il y a un gros potentiel derrière les Ray-Ban Meta, mais Meta AI ne fonctionne pas en Europe. C'est valable pour tout ce que Meta veut mettre avec son IA en Europe. On n'a pas Meta AI, ouais, c'est ouais. qu'aux États-Unis pour le moment. Mais sur le premier modèle,
il y a qu'il y aura une mise à jour et que ça va arriver.
Évidemment, une fois qu'ils auront tout négocié.
Parce que est-ce que ça impacte le DMA, le DSA? Parce que je me dis, c'est peut-être ça.
Poser la question.
Je pense que peut-être, à mon avis, c'est un peu touchy là-dessus sur comme tu dis, le côté intrusif.
Il y a un truc impressionnant, c'est que bon, il y a beaucoup de lumière ici et quand tu regardes les branches, tu vois tous les composants électroniques à l'intérieur.
Ça, c'est clair.
De chaque côté, et c'est vraiment impressionnant.
Mais c'est impressionnant.
En fait. C'est super bien fait, hein, quand même.
Tu comprends pourquoi ils ont choisi ce modèle-là? Parce que c'est plus facile de cacher dedans. En fait, ça fait des lunettes qui sont à peine plus lourdes que l'original.
Elles sont hyper légères. Ah non,
mais je ne fais pas la différence.
Quand tu compares avec des Wayfarer classiques,
moi, les autres, je les avais.
Et c'est là où ils jouent fort, c'est que c'est Ray-Ban, tu vois.
Ouais, bah, c'est sûr. Parce que moi, j'avais la version 1, je l'avais.
Des lunettes iconiques qui existent depuis 30 ans.
Moi, je les ai utilisées pas mal, la première version. Je les utilisais quasiment jamais en fonction connectée. C'est-à-dire, je les utilisais juste en lunettes de soleil.
Et moi, en lunettes.
Personne ne m'a jamais dit, ah, t'as les lunettes Meta, machin et tout.
Personne ne le voit.
Personne ne le voit.
Parce que, enfin. Il faut dire aussi qu'il y a peu de gens qui achètent ce type de produit. Hein. On n'en voit pas beaucoup, hein, à part nous qui avons la chance de pouvoir les tester, etc. Ça n'a pas été le premier modèle,
n'a pas été un succès
phénoménal.
C'est même étonnant qu'ils sortent un deuxième modèle. Donc c'est vraiment, pour moi, sur ce modèle-là, la fonction principale qu'ils voulaient vraiment mettre, c'est le streaming. Et c'est pour mettre en avant sur tout
moi,
le...
Tu sais quoi, j'ai ma petite idée. Je pense qu'encore une fois, Zuckerberg, dans sa logique de métavers, se dit, aujourd'hui, on a un masque qui est hyper sophistiqué, qui fait plein de trucs et tout, mais qui est trop gros. De l'autre côté, on a des lunettes. Aujourd'hui, dans les lunettes, on arrive à mettre des petites caméras, on arrive à mettre des petits haut-parleurs qui permettent d'être connectés, etc. On va commencer à habituer les gens à avoir des fonctionnalités supplémentaires sur des lunettes. Et petit à petit, les deux vont fusionner.
Tu testes l'acceptabilité, en fait. Au
c'est un point d'entrée.
C'est un ballon d'essai, en fait.
Tout à fait.
Sachant qu'on sait que Meta...
Il gagne du temps.
Exactement.
Parce que si demain, il sort ce truc-là avec toutes les fonctionnalités, il y a tout le monde qui va lui tomber dessus.
Exactement.
La vie privée, etc. Et là, il commence un peu à ambiancer la société avec ce type d'objet.
Et puis, c'est complètement relié à tout, évidemment, relié à tout l'écosystème Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça, on peut avoir. Mais et puis, avec une autonomie, alors on l'a dit, évidemment, c'est pas un objet dont on se sert aussi assidûment qu'un smartphone ou autre, mais il y a quand même 36 heures d'autonomie. C'est un coup même carrément à oublier de le recharger. Parce
ouais,
que
c'est pas mal, hein, 36 heures.
On ne sait plus quand est-ce qu'on l'a chargé. Le premier modèle, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour, comme toi, en lunettes, au final, et en musique. Et pour la musique, parce que ça, c'est pratique. C'est tout bête, mais comme le son n'est pas très fort et qu'il ne vous coupe pas de l'extérieur, ben, à vélo, en fait, ça, on peut l'utiliser en lunettes.
Bah, comme les casques à conduction aussi.
Voilà.
En fait.
Ouais.
Alors voilà, vous allez sur le site de Ray-Ban, il y en a plein. Il y a plein
de
modèles, en fait. 329 euros.
Quand même.
Et ça peut monter jusqu'à 409. Enfin, il y a plusieurs modèles qui sont liés au design de la lunette, en fait, hein, qui font que ça coûte plus cher ou pas. Mais ça commence effectivement à 329. Voilà pour les lunettes Meta. On quitte la tête pour s'intéresser aux poignets avec les rumeurs de plus en plus persistantes concernant la prochaine Apple Watch, Anthony. Ça commence à devenir sérieux parce que septembre prochain, on fêtera les 10 ans de l'Apple Watch. Et on a l'impression qu'Apple veut marquer un grand coup.
Clairement. Je pense même qu'ils ont fait exprès cette année d'avoir une version un peu plus...
Light.
Un peu plus light, exactement.
Sur les innovations, non mais soyons honnêtes.
Voilà, il n'y avait pas grand-chose de neuf parce qu'ils se préparent pour la 10e édition à nous en mettre plein les mirettes, en tout cas ils espèrent, et notamment avec plein de fonctionnalités liées à la santé. Alors il y a eu pas mal de news cette semaine venant de l'inarrêtable Mark Gurman, donc le journaliste le plus au fait de tout ce qui se passe chez Apple, hein, qui travaille chez Bloomberg, et qui a donné quand même un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle gamme de Watch 10, qui pourrait intégrer trois nouveaux types de capteurs liés à la santé. On sait que c'est l'un des chevaux de bataille d'Apple, hein, que cette Apple Watch est devenue maintenant un objet de santé, un petit assistant médical au poignet qui sauve des vies. C'était d'ailleurs l'une des vidéos qui avait été présentée pendant la keynote d'Apple, la plus spectaculaire d'ailleurs, avec des témoignages de gens qui ont été sauvés par leur Apple Watch. Donc ces trois capteurs, ce serait quoi? Ce serait un capteur pour la pression sanguine, donc pression artérielle, hyper intéressant, hein, évidemment, qui ne serait pas aussi précis que quand vous avez le brassard chez le médecin qu'on vous sert, évidemment, parce que là, c'est juste une montre au poignet, mais qui pourrait quand même, en analysant, alors, je ne vais pas tout compris d'un point de vue technique, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais c'est les variations sanguines à la surface de la peau. On est capable de te donner un indicateur incroyable de la variation de la pression. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse? Et donc de dire, attention, peut-être que là, vous êtes hypertendu, vous devriez aller voir sur chez le médecin. Donc, ce n'est pas forcément un suivi au quotidien de ta pression, mais ça te montre la variation, en tout cas, dans le temps. Ça, c'est la première chose.
Tu sais que ça existe déjà, ça, hein?
Dans l'Apple Watch? Non.
Non, pas dans l'Apple Watch.
Non, il y a certaines montres.
Il y a un bracelet d'une start-up suisse qui a développé cette technologie depuis quelques années. Et je pense qu'Apple va s'inspirer de cette techno.
C'est tout à fait possible.
Et ce bracelet, moi, j'ai un pote qui est un peu hyper tendu, comme on dit, qui l'a acheté. Il m'a dit, mais c'est génial. Parce qu'en fait, le fait d'avoir ta tension artérielle tout au long de la journée et d'avoir un bilan sur ton appli, si tu veux, le soir... ça change tout, parce que d'habitude, pour la
mission, il faut
que tu prennes ton brassard, que tu fasses tu vois, ta mesure, etc. Ça prend du temps, tu peux être un peu stressé. Là, tu l'oublies, en fait, ton bracelet. Et tu as une vraie tension artérielle.
Absolument. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est énorme, hein, parce que l'hypertension, hein, pour le coup, c'est un marché, pardon de parler comme ça,
oui,
mais
non,
c'est un
c'est
marché
vrai.
Qui est absolument gigantesque, évidemment, encore plus aux États-Unis, mais même un peu partout dans le monde. Le deuxième capteur, c'est un capteur d'apnée du sommeil, donc très intéressant aussi, hein, dans l'analyse du sommeil. Alors, on n'a pas toutes les indications non plus.
Non, là-dessus, ça c'est le capteur du sommeil. En fait, on le trouve déjà sur d'autres montres.
Oui.
On en voit sur la ScanWatch de Wizink, je crois qu'il fait ça déjà. Je pense que je me demande si la Galaxy Watch 6
ne fait pas aussi. L'apnée du sommeil.
En fait, ça, c'est un point qu'on connaît depuis longtemps sur d'autres montres. Et c'est vrai que chez Apple, on l'attend, en fait, depuis, la pression artérielle. C'est des capteurs, des choses qu'on attend depuis très longtemps. On sait qu'ils les mettent. Ouais. Ils les gardent pour le bon moment. Et le bon moment, c'est l'année prochaine, clairement.
Et le dernier, alors, pareil, qu'on attend depuis longtemps, c'est le capteur de glycémie. Alors, on ne sait pas. Alors, ce n'est pas très clair, là, pour le coup, dans les infos. Est-ce que ce sera dans la prochaine version ou est-ce qu'ils sont encore en train de travailler dessus et ce serait pour une version encore après? Mais en gros, là, l'idée, ce serait de pouvoir suivre la glycémie ou en tout cas plutôt de prévenir un patient qu'il est potentiellement prédiabétique. Donc, ce ne serait pas pour avoir un suivi de la maladie chronique, parce que ça, c'est compliqué sans te piquer aujourd'hui. Mais ce serait en tout cas pour pouvoir avoir une analyse, là encore, en analysant les variations sanguines à la surface de la peau.
Pas sur le taux de glucose, ça, ils ne pourront pas le prendre.
Ça,
mais de toute façon, il y a une chose qui est très claire chez Apple sur la santé, comme tu l'as dit. L'Apple Watch est un point d'entrée pour eux énorme. Ils travaillent avec beaucoup de laboratoires, de centres de recherche à travers le monde. L'Apple Watch est utilisé vraiment en tant qu'appareil de suivi médical dans des universités. Pour là-dessus, c'était la fréquence cardiaque, tout ce qui était autour du cœur, des problèmes, des maladies cardiovasculaires, leur premier cheval de bataille. Maintenant, ils sont sur l'hypertension, sur des choses comme ça. Ils se défendent bien de se dire dispositif médical, tu as bien fait de le dire. C'est toujours un système d'alerte. De toute façon, c'est marqué partout dans l'Apple Watch quand vous faites quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça comme des valeurs et comme un bilan réel. C'est un indicateur pour autre chose. En revanche, l'axe santé, il est réel. C'est un truc extrêmement important que Tim Cook prône depuis très très longtemps, et dans l'iPhone et dans l'Apple Watch. Donc tout ça, c'est vrai qu'on le sait que c'est murmuré. Il y en a qu'on attendait déjà l'année dernière, cette année. Et en fait, avec les 10 ans, ils se laissent en plus de peaufiner le tout. Mais ils travaillent dans des universités sur tout ça, sur la pression artérielle. Depuis très longtemps.
Tu as tout à fait raison de dire que c'est tout un écosystème qu'ils veulent mettre en place. Tim Cook a dit qu'il voulait qu'on se souvienne d'Apple comme une entreprise de santé. C'est-à-dire que lui, sa legacy, son héritage, il veut que ce soit ça. Forcément, Steve Jobs, ça a été l'iPhone. Tim Cook, lui, il veut que ce soit vraiment l'entreprise de santé. Et donc, ça va passer au-delà de l'Apple Watch par aussi. Il voulait lancer un service de santé connecté où tu puisses t'abonner et avoir un suivi. Ils avaient testé même un moment auprès de leurs salariés, mais finalement, ça n'avait pas pris. Un service de clinique privée Apple tu avais des médecins qui étaient payés par Apple et où tu pouvais prendre des rendez-vous. Et tout ça relié évidemment à ton smartphone, à ta watch, et tu pouvais, en fonction de ce qui t'indiquait, prendre des rendez-vous et tout. Il y avait vraiment un système entier qui avait été pensé. Et sur le fait d'ajouter des capteurs, c'est vrai dans l'Apple Watch, c'est vrai aussi, par exemple, dans les AirPods, dont ils veulent faire aussi un outil de surveillance de la santé pour, par exemple, surveiller sa posture. Voilà, est-ce que je me tiens bien droit pour éviter les maux de dos? Des aides auditives aussi qui pourraient s'intégrer directement dans les AirPods. Ça aussi, Apple travaille dessus. Et puis, il y a l'iPhone aussi, évidemment, qui va pouvoir permettre de passer en téléconsultation. Alors, ils avaient même... Alors, je sais plus si c'était des brevets qu'ils avaient déposés, mais où à travers la caméra du téléphone, tu pouvais analyser si une personne était potentiellement dépressive. Et à ce moment-là, prendre un rendez-vous avec un psy dans la foulée. Enfin, tu vois, ils ont vraiment pensé à énormément, énormément de choses. Et je pense que là, dans les prochaines années, ça va être vraiment une verticale qui va se développer à fond chez Apple.
Mais quand tu regardes l'appli santé de ton iPhone, déjà, tu vois toutes les métriques qu'il y a dedans. C'est un truc hallucinant. Lien avec aussi tous les systèmes à côté de devices qui peuvent fonctionner, qui sont hors Apple officiellement. Mais toutes les données, enfin, c'est une mine d'informations, cette appli santé.
Moi, petite pensée quand même pour WeThings, qui effectivement est notre pépite française de la santé connectée. J'espère qu'ils vont pouvoir répondre à tout ça, en fait, et être au niveau d'Apple, parce que c'est vrai que l'Apple Watch, l'année prochaine, propose toutes ces fonctionnalités.
Après, ils sont sur un positionnement un petit peu différent, WeThings, parce qu'ils ont ces montres qui ressemblent à des vraies montres, ils sont un peu sur le design, etc.
Oui, mais la santé, si tu veux, c'est un fer de lance, quand même.
Ouais.
Eux, ils se positionnent en vrai. Déjà avec des vraies montres qui ressemblent à des montres, mais surtout, ils ont les labels santé, ils ont des certifications qu'Apple ne cherche pas vraiment à avoir, en fait.
Mais tu sais, Apple est obligé d'avoir des certifications, parce que s'ils n'ont pas de certification, ils n'ont pas le droit de se servir des fonctionnalités. Par exemple, l'électrocardiogramme, ils ont la certification.
Ça, ils l'ont eu, c'est pour ça qu'on avait tardé à l'avoir en France.
Voilà.
Mais ils l'ont pas pour d'autres, il y a plein pour lesquels ils l'ont pas.
En tout cas, toutes les fonctions santé qu'il y a aujourd'hui sur l'Apple Watch, c'est qu'ils ont les certifications. Autrement, ils n'ont pas le droit de s'en servir.
Mais Linda a raison, c'est que sur ce qui s'annonce pour l'Apple Watch 10, ce serait effectivement des capteurs qui seraient plutôt en mode prévention et pas sur un truc suivi médical avec des données précises sur ta glycémie, ta pression artérielle. En fait, ils disent on peut pas faire ça pour l'instant à travers une simple montre.
Oui, c'est un peu comme leur capteur de température.
Pour
les cycles féminins, en fait.
Alors qu'en fait, si tu farfouilles dans l'appli, tu as ta température.
Ouais, tu as ta température.
Tu as ta température.
Mais ils communiquent pas dessus parce que ça a pas été, à mon avis, certifié. Alors, ils sont pas sûrs.
Je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'appli, en farfouillant, tu peux avoir ta température prise plusieurs fois. Et en fait, ils me disent, comme on n'a pas de garantie que ce soit au dixième près,
ils prennent pas
de degré, on ne s'avance pas en disant c'est un capteur de température. Mais évidemment, mais c'est comme pour toutes ces chapelles pendant longtemps. Ils ne voulaient pas dire que leur appareil était certifié IP, quoi que ce soit, parce qu'ils n'avaient pas fait la demande. Mais alors, en fait, tu savais très bien que tu pouvais lâcher ton iPhone dans l'eau et il survivait parce qu'en fait, il était déjà, étanche. Sauf qu'ils ne le disaient pas parce qu'ils n'avaient pas la certification.
On verra vivement la rentrée prochaine. On aura l'iPhone 16
et donc l'Apple Watch.
Mais ça va être intéressant, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques rumeurs aussi comme quoi Apple travaillerait sur un téléphone pliant.
Ça revient, mais ce n'est pas une rumeur, en fait.
C'est pas une rumeur. On sait très bien depuis des années qu'ils travaillent dessus, sauf que le marché n'est pas mature et qu'ils le feront quand ils en auront besoin, en fait, dans leur catalogue, comme pendant longtemps.
Mais pourquoi il n'est pas mature, le marché ? Parce qu'ils n'y sont pas. Mais le jour où ils y seront, le marché sera mature.
Peut-être. Enfin, ouais, mais il y a des bons modèles sur les smartphones pliables. Et c'est vrai que ça ne prend pas tellement.
Il n'y a que Samsung, quoi.
Samsung, ils sont...
Ils tuent le marché.
Ils sont
largement au-dessus.
Bien sûr, évidemment. Dans l'actu, autre chose maintenant, c'est notre chapitre intelligence artificielle avec deux news qui sont tombés coup sur coup. Le week-end dernier, c'est Elon Musk qui a communiqué sur son ChatGPT à lui, connecté à X. Il s'agit de Grok.
Grok, c'est du martien.
C'est
du martien, parce que je parle couramment martien, il faut le savoir. Donc c'est une référence, comme souvent avec Elon Musk, un bouquin de science-fiction des années 60.
Et puis comme il est fasciné par la science-fiction et par Mars.
Exactement, donc ça tombe bien. Et ça veut dire, alors dans le bouquin de science-fiction, ça veut dire comprendre intuitivement et avoir de l'empathie. Voilà, tout un programme. Et donc il a présenté cette IA qu'il veut comme un concurrent de ChatGPT avec des petites particularités. Donc c'est vrai que sur la forme, ce sera un ChatGPT-like. En gros, c'est une chatbot, pose des questions et il y répond. Et d'ailleurs, certains ont déjà pu le tester parce qu'il y a des bêta-testeurs qui ont accès. Sur la forme, deux différences majeures, nous dit Elon Musk, c'est que ce sera une IA humoristique, sarcastique et rebelle. Donc en gros, c'est un peu le god complexe d'Elon Musk, il a voulu construire l'IA à son image. Donc,
c'est lui qui répond à tous les messages, en fait.
Exactement ça.
Okay.
J'ai pensé, quand j'ai vu
ça. Pas, il a le temps.
Oui, voilà,
les deux adjectifs, tu vois, c'est vraiment ça le caractérise. C'est-à-dire que cette IA, quand tu lui poseras des questions, en gros, elle te fera des réponses avec des traits d'humour, un peu de second degré. Bon, les exemples qu'il a donnés ne sont pas très pas incroyablement hilarants, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez fun. C'est un peu comme quand Elon Musk, effectivement, répond sur Twitter, pour prendre un petit peu le ton.
En fait, c'est son IA qui répond depuis des semaines et des semaines.
C'est peut-être dans l'autre sens, c'est peut-être Grok en fait depuis le début qui tient le compte d'Elon Musk.
Peut-être
qu'Elon Musk est une IA. Et l'autre, alors autre point qui est peut-être plus intéressant, c'est ce côté IA rebelle. Qu'est-ce qu'il entend par là ? En fait, il nous dit ChatGPT ne répond pas à toutes les questions que vous lui posez. C'est vrai, ChatGPT, on lui a instauré des codes moraux, des garde-fous, des limites. Oui. Musk, avec son côté libertarien, zéro censure, etc., dit « Attendez, non, hors de question, nous, on va faire une IA qui sera beaucoup plus libre et qui acceptera de répondre aux questions. » Alors, avec quel curseur ? Je ne pense pas que si tu lui demandes voilà, comment tuer mon voisin et garder le corps, je ne pense pas qu'il accepte de le faire, si tu veux. Mais en tout cas, apparemment, on pourra pousser le bouton un petit peu plus loin qu'avec ChatGPT. Et alors, ce qui est derrière tout ça, c'est aussi une question idéologique, c'est-à-dire que Musk veut une IA anti-woke. En gros, on va le dire comme ça. Pour lui, ChatGPT, c'est un truc de gauchiste. Il déteste ça. C'est progressiste. Et franchement, il a pas tort de penser ça. C'est-à-dire que sur les travaux de recherche qui ont été menés, ChatGPT est plutôt de gauche que de droite. Et il penche à gauche. C'est-à-dire que voilà, sur les questions sociétales, tout ce que tu veux, elle va plutôt te faire des réponses qui vont dans ce sens-là. Et donc Musk dit bah attendez, il y a pas de raison qu'il y ait qu'un seul son de cloche. Moi, je veux créer un contre-pouvoir. Et donc mon IA à moi, elle sera. Alors, je sais pas si elle sera idéologiquement marquée à droite, mais en tout cas, elle sera beaucoup moins idéologiquement marquée à gauche. Ce qui est un point intéressant, je trouve, et qui se défend.
C'est vrai.
J'ai hâte d'entendre ChatGPT et Grok discuter. Je pense que ça peut être énorme.
Ça peut être très sympa. Il y en a un qui va être très lisse et l'autre qui va s'énerver. Ça va être très drôle. Précision quand même, Grok ne sera pas gratuit. Hein. Ça fera partie de l'abonnement premium de X.
Premium plus,
je crois qu'on est à
$16.
$16, hein. Ce qui fait que bon, on va pas être très nombreux à mon avis à l'utiliser. Hein,
ouais, peut-être que certains vont prendre l'abonnement à $16 pour avoir Grok, c'est dit. Parce que c'est vrai que l'abonnement à $16.
Combien c'est ChatGPT?
20.
C'est $20. Donc tu vois, ça peut. Faut voir la performance après.
Hein. Il faut voir la performance.
Il y a deux trucs qui me font peur, c'est qu'apparemment c'est nourri par X.
Oui. Et quand on voit ce qu'il y a
dedans, la base de données de qualité.
X, ça peut faire peur.
Base de données de qualité bio.
Mais c'est ça. J'ai une question juste pour faire mon mauvais esprit. On est bien d'accord qu'Elon Musk, c'est le gars qui voulait mettre toutes les recherches sur IA en pause il y a 6-7 mois.
Oui, c'est génial.
On est d'accord. Il fallait ralentir, c'était dangereux pour l'humanité.
Mais c'est là que tu vois le génie stratégique du mec.
Bah, non, mais on l'a vu venir à 10 000. On l'a vu venir à 10 000.
Ouais, mais il est malin. Attends, le mec, il dit.
Personne n'y croyait.
Non, mais quand même, il a fait son truc. Attends, quand il a fait son moratoire, tout le monde dans les médias, quand même, l'a repris. Il dit, oui, Elon Musk dit l'IA, c'est très, très dangereux. Il faut tout arrêter pendant 6 mois. On sait qu'il était au même moment en train de recruter des mecs chez Microsoft et Google pour créer ce truc-là.
C'est ça qui est génial. On savait qu'il travaillait en même temps. Personne n'a cru. Mais bon, après, c'est Musk. De toute façon, de quoi qu'ils disent, tout le monde en parle. Mais on savait très bien. Comment ça peut lui échapper ?
Mais
comment
c'est
quelqu'un qui est autant dans la technologie, ça peut lui échapper d'aller sur le chantier actuel, la plus grosse révolution depuis des lustres.
Évidemment. Mais il a un discours. Mais même, tu le vois, la semaine dernière, là, tu as eu le grand sommet international sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Londres. Ouais. Il y était. Et il a tenu. C'est pareil. En fait, tu as l'impression qu'il se contredit lui-même. Alors, tu sais pas trop, en fait, parce qu'il doit parler à des publics différents. Il y a un moment, il dit l'IA, c'est très, très dangereux, c'est une menace existentielle pour l'humanité, il faut faire très attention et tout. Et puis, de l'autre, il te dit non, ça va être un truc génial, c'est comme un génie qui sort de la lampe et qui fera tout à notre place. On n'aura plus besoin de travailler, on entrera dans une ère d'abondance où on aura tous, les humains, un revenu universel très élevé. On aura juste à se. En fait, le travail, ça deviendra vraiment une option et nous, on aura le choix de ne rien faire et il faudra trouver du sens à notre vie.
Ça me plaît comme scénario. Mais je suis pas sûr qu'il ait raison.
On va tellement s'ennuyer. On va tellement s'ennuyer. On testera
des montres, des lunettes.
Mais non, t'auras des IA pour le faire pour toi.
Mais c'est ce que dit Musk. Il dit le problème philosophique de demain, ce sera trouver du sens à notre vie dans un monde où on n'aura plus besoin de travailler.
Mais c'est ça qui me fait peur. Je suis d'accord avec lui là-dessus.
Tu joueras aux jeux vidéo. Non.
Moi, je trouverais de quoi m'occuper.
Voilà, là, on ouvre le débat. Franchement, je trouverais plein de trucs pour m'occuper.
Aucun problème.
Deuxième actu IA. Parce qu'il faut qu'on bosse encore un peu. Hein. C'est pas pour tout de suite. Hein,
le revenu universel.
L'oisiveté d'Elon Musk, c'est pas pour tout de suite. C'est OpenAI qui a fait sa première keynote. Keynote d'anniversaire, hein, puisque ChatGPT, rappelez-vous, ça fait déjà un an que ça a été lancé. Et donc Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, est monté sur scène pour annoncer quand même pas mal de nouveautés. Alors, il y a GPT-4 Turbo et notamment les GPTs aussi, qui est un truc assez dingue.
Ouais, le GPTs ou le GPT Store, on pourrait appeler
ça. Le GPT Store.
C'est en gros, l'idée, c'est qu'on va, à côté de ChatGPT, pouvoir créer, et quand je dis « on », c'est des développeurs, mais ça pourra aussi être visiblement monsieur et madame tout le monde, parce que ça sera en no-code, donc assez facilement, avec des briques technologiques qui n'ont pas été encore présentées précisément, mais on pourra créer des mini ChatGPT, c'est-à-dire des mini intelligences artificielles sur des tâches très spécifiques. ils en ont donné, et il y aura une boutique d'applications comme il y a un App Store pour les smartphones. Alors, il a donné quelques exemples concrets. Ça pourrait être, je ne sais pas, moi, j'aime bien les jeux de société, donc j'ai une IA qui va pouvoir m'apprendre toutes les règles de tous les jeux de société pas à pas, tu vois. Donc, tu vas nourrir ton IA avec des documents que n'a pas forcément ChatGPT, donc la notice d'un jeu de société, par exemple, et elle va pouvoir te faire un tuto pour apprendre à jouer à ce jeu pas à pas de manière très didactique. Ça peut être, moi j'aime bien la course à pied, me faire un plan d'entraînement pour préparer un marathon. Et donc, je pourrais avoir comme ça des informations très détaillées sur comment se préparer de manière optimale. Et en fait, une fois que j'ai créé ce chatbot-là, je pourrais aussi le monétiser. Alors, ils n'expliquent pas exactement selon quel modèle économique, etc. Mais en tout cas, ils veulent mettre en place tout un système, tout un écosystème applicatif.
C'est-à-dire
en fait.
Le coach marathon créé par Anthony Morel, pourrais le vendre.
Tu pourrais le commercialiser, visiblement. C'est comme ça qu'ils ont présenté le truc, en tout cas.
Ah, mais c'était marrant, les GPTs. Hein. Moi, je trouve ça. J'aime bien le côté. Enfin, alors, moi, je vois plus des évolutions éducatives. Je me dis que tu peux faire des programmes d'apprentissage en fait extrêmement personnalisés. J'aime beaucoup le côté personnalisation parce que ChatGPT c'est bien, mais ça fait peur à beaucoup de monde aussi dans l'usage. Nous, on est un peu dedans, donc on voit tout ce qu'on peut en faire, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mais c'est un espèce de monstre, de tsunami qui me tombe dessus, de possibilités, je ne sais pas par où commencer. » Et je trouve que l'approche des GPT, ces petits chatbots personnalisés thématiques, bah, j'aime bien l'idée où chacun va pouvoir en faire un peu à sa sauce. Voilà, le commercialiser quand on arrivera sur des trucs plus évolués. Mais je trouve ça sympa. Alors moi, ça m'a fait marrer, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a fait marrer, c'est le côté, le programme de la machine à laver. C'est le truc que personne ne comprend jamais. T'as tout mélangé, qu'est-ce que tu fais comme programme ? Hop, tu demandes à ton chatbot. Non mais, blague à part, pour les fabricants, clair, ça va être génial.
Ouais, c'est clair.
Non, mais c'était assez intéressant.
Après, le fantasme, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir avoir un GPT Anthony Morel, un GPT Melinda d'Avansoulas,
un GPT François Sorel ? En fait, si tu veux...
Ouais. Tu vois, tu lui dis, bah tiens, j'ai envie que tu deviennes mon assistant pour plein de choses, je sais pas, moi, tu vois, en tout cas, qu'on ait les mêmes, on va dire, les mêmes biais de pensée, qu'on comprennent que voilà, on est spécialisé dans la tech, etc. Et qu'on puisse avoir un assistant qui peut nous seconder sur des tâches, tu vois.
Moi, je suis sûr qu'on va vers ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est les prémices de Jarvis dans Iron Man. Jarvis dans Iron Man. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison. Je pense que ces IA, à la fois, on va pouvoir les personnaliser sur des trucs qui nous intéressent, mais les IA vont aussi se personnaliser en apprenant de notre personnalité, en apprenant de nos habitudes, etc. Et elles vont pouvoir adapter leurs réponses notre style, à notre vie, etc.
Je dis n'importe quoi, mais Anthony Morel, par exemple, il y a énormément de données sur Internet. Des vidéos, des audios, du texte. Si cette IA se nourrit de toi, elle peut très bien arriver à un clone dans... Non, mais
j'ai une anecdote pour toi pour aller à l'inverse de
non, mais
ce que tu dis.
C'est drôle, quoi.
Ouais,
enfin, tu vois.
Ah, mais tout à fait. Alors, il y avait une influenceuse il y a quelques mois sur Internet.
Oui, j'en ai entendu parler.
Qui avait voulu se créer une IA pour répondre à sa place à des messages parce qu'elle recevait des tonnes de messages. Donc, elle faisait payer $1 la minute pour discuter avec une IA qui lui ressemblerait. L'IA s'est nourrie de ce qu'elle a trouvé sur la nénette sur Internet, Instagram, TikTok et tout. Elle est partie en live total, c'est-à-dire qu'elle prenait, en gros, elle était une espèce d'escort girl vocale. Donc les mecs payaient pour en pensant, parce que voilà, c'est l'influenceuse type,
oui,
un peu bimbo,
un peu sexy,
quoi.
Etc.
Donc l'IA s'était prise pour elle et partait en vrille totale. En tenant des propos salaces, non mais parce que c'était nourrie de ce qu'il y avait sur Internet et de l'image que la nénette avait sur Internet. Donc elle a dû arrêter. Je pense qu'elle a fait fortune avant, à $1 la minute, je pense que tu fais fortune.
Ça peut être pas mal, ouais.
Mais enfin, faut se méfier quand même du biais de l'IA quand même.
Mais bon, derrière c'est ChatGPT, c'est quand même peut-être plus.
C'est plus carré.
Ouais.
Ce serait Grok.
On verra. Avec Grok, on verra.
Grok, ça risque d'être rigolo. Alors là, franchement, on termine avec le jeu vidéo et deux petites news. Alors, GTA.
Ah, formidable.
Voilà. GTA 6, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais en tous les cas, visiblement, tout le web s'excite parce que la bande-annonce ne devrait pas tarder.
Parce qu'on a annoncé qu'on annoncerait bientôt un trailer. Non, mais soyons honnêtes, ils sont extrêmement forts, Rockstar. Ça fait 10 ans que quelqu'un attend un successeur à GTA 5, un vrai, pas des ressuscés, des remasters. Les mecs annoncent qu'ils vont, début décembre, donc la fourchette est quand même large, mettre les premières images de leur prochain GTA. Ouais. Ils ne disent jamais GTA 6. Pour la petite blague, ils préparent un GTA pour Netflix. Hein. Si c'est ça, un GTA mobile, on va rire.
Un GTA pour Netflix ?
Ouais,
mais en jeu vidéo, en
oui,
série ?
Oui, tu sais, pour le Netflix game. Là,
ouais, d'accord. Ouais.
Non, mais tu vois, il y a des... Enfin, après, ça va être sans doute un vieux GTA refait, mais c'est
mais
drôle.
Ça va cartonner parce que ça va être gratuit, ça va être compris dans l'abonnement Netflix.
Voilà. Et donc, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, cette annonce. Mais ils sont tellement forts en com.
Attends, mais les franchises qui peuvent se permettre de faire le buzz en annonçant qu'ils vont annoncer une
date.
C'est là que tu vois la puissance d'une marque. Ouais. Apple peut faire ça.
Oui.
Quand Apple dit on va faire notre keynote le temps de septembre, tout le monde reprend.
Mais c'est ça.
T'as Rockstar, enfin t'as
GTA. Rockstar donne une fourchette.
Sinon, franchement, quelle autre marque peut faire ça?
Personne.
Ça fait 10 ans qu'on attend ce jeu-là. Il y a eu plein de rebondissements, les piratages, enfin.
On sait que le jeu ressemblera pas à ce qu'on a vu il y a un an dans les leaks. Mais bon, c'est quand même une franchise. Enfin, c'est quand même un jeu à 185 millions. Vendu.
De copies.
Et qui doit ramener des milliards.
Attends, mais t'as vu le chiffre de. Alors, c'est des rumeurs, parce que c'est le mec qui avait fait leaker les images, qui avait sorti ce chiffre de 2 milliards de dollars de coûts de développement pour le jeu. Ce qui est un truc de fou. Alors, ça a été réévalué. Certains disent, ouais, ce serait plutôt entre 1 et 2 milliards.
Non, mais c'est ça.
C'est énorme. Un milliard, enfin, c'est le film le plus cher de l'histoire, c'est les Avengers, c'est 1 milliard. Donc, on serait sur des budgets supérieurs à Avengers.
Mais ça m'étonne pas.
C'est un truc de fou.
GTA Online, la déclinaison en ligne, c'est une manne financière de folie. Ils ont raison, et ils ont raison de prendre leur temps. Enfin, en 10 ans, Rockstar a sorti deux jeux, Red Dead Redemption 2 et celui-là. Quoi.
Je suis sûr que le 5 est encore une vache à lait.
Ah, mais bien sûr.
Ils
s'en vendent encore 20 millions.
Donc, en fait, ils s'en foutent.
Deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, hein, derrière Minecraft.
Minecraft et Wii Sport, on est sur des jeux hyper familiaux, on est un jeu qui est complètement à contre-courant.
Il y a peut-être les Sims aussi qui sont dans cette logique. Ou alors on attend les Sims, tu vois.
Les Sims, c'est des extensions tous les mois.
Non, mais d'après ce que j'ai compris, il y aura un nouveau
Sims. Les Sims, peut-être 5, oui. Mais ça n'a pas la...
Non, ça n'a pas le même impact.
Là, on est sur un jeu sulfureux, subversif.
Oui, bien sûr.
Il y a quelque chose, de délicieusement hors la loi avec GTA.
Ça coche toutes les cases, en fait. Parce que du coup, tu sais que tu vas avoir une petite polémique, les médias mainstream qui vont reprendre le truc. Mais attendez, c'est un jeu vidéo, machin.
Mais les streamers attendent que ça.
Ouais, bien sûr. Vraiment, ils cochent toutes les cases.
C'est un peu gangster.
Mais c'est le jeu sur le grand banditisme. C'est génial.
C'est top.
Extraordinaire, GTA.
Eh bien, voilà. Écoutez, on attend. Il nous tarde de voir cette bande-annonce. Le jeu, on ne sait même pas quand est-ce que ça sort.
Pas avant fin 2024, début 2025, dans le meilleur des cas, à mon avis.
Et voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Mélinda. Mélinda d'Avansoulas, qu'on retrouve dans Multijoueur. C'est quel jour,
Multijoueur ?
Tous les jeudis. Voilà.
Et après, en podcast aussi.
Sur la plateforme Tech & Co, audio, vidéo, etc. Voilà, le grand rendez-vous jeux vidéo de notre plateforme. Et puis Anthony, bien sûr, sur BFM Business. Et sur RMC Story, merci à tous les deux. Et vous restez avec nous. De quoi je me mêle se poursuit. Direction le Labo Fnac. Comment choisir votre PC gaming en cette fin 2023 ? On vous donne quelques éléments de réponse avec Lionel Costa tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, un grand merci d'être fidèle, que vous soyez avec nous sur YouTube en audio et que vous ayez préalablement téléchargé De quoi je me mêle ou bien le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé. Merci d'être là. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel.
Salut François.
Responsable du développement du Labo Fnac. Et vous savez qu'on aime bien régulièrement nous plonger dans l'expertise du Labo pour vous donner quelques conseils pour bien choisir vos produits high-tech. Et alors que la Paris Games Week s'est terminée il y a quelques jours et alors que les fêtes de fin d'année commencent à montrer le bout de leur nez et qu'on va se retrouver aussi avec le Black Friday très très bientôt, peut-être êtes-vous dans cette logique de vous dire comment choisir mon nouveau PC gaming. Eh bien on va essayer d'y répondre, déjà faire un point sur l'état de l'art technologique du PC pour les gamers et puis après comme toujours quelques modèles que vous avez sélectionnés et qui valent vraiment le détour. Lionel, c'est toujours comme ça.
Et comme tu disais, la jungle.
C'est la jungle,
C'est la jungle.
Ah ouais.
On s'y retrouvait là-dedans. Justement, on sort de la Paris Games Week, on a vu justement l'offre, ça prolifère de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans? Ceux qui font beaucoup de lumière, ceux qui ont beaucoup de techno, qui amènent plein de choses. Mais au final, comment arriver à savoir quel est le meilleur ordinateur pour moi, pour mon usage et pour le type de jeu que je vais faire, que je vais utiliser?
Bien sûr.
Il y a vraiment, on va distinguer, deux grandes familles. Il y a les jeux contemplatifs et les jeux où la rapidité est le plus important. Je prends un exemple de Fortnite. C'est joli, c'est un peu dessin animé, mais c'est d'abord la fluidité qui compte. Un jeu comme Flight Simulator, évidemment, il ne faut pas que ça saccade, mais c'est d'abord du contemplatif. On veut voir des trucs super beaux, la définition.
Des décors photoréalistes, etc.
Exactement. Et donc là, vraiment, on est sur les deux éléments phares qui font qu'un ordinateur portable gaming est adapté. C'est la résolution et la fluidité de l'autre côté. Alors, si on cumule les deux, c'est parfait.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours la même question. PC ou console ou console, en fait. Est-ce que je dois m'offrir une PlayStation 5 ou une Xbox Series ou alors un PC de gamer, en fait?
Ou les deux.
Ou les deux, mais alors il faut être très riche.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a plein de clients à la fin qui se posent encore la question, non?
Oui, et c'est un peu infernal. Alors moi, je suis plutôt gamer sur PC parce que voilà, c'est mon histoire là-dessus. J'ai joué un peu en console, mais c'est vrai que le gameplay n'est pas pareil. Donc la manière d'utiliser
la console... Oui, parce que le clavier et la souris, en fait.
Exactement.
C'est une ergonomie qui est totalement différente.
Complètement. Un jeu type Street Fighter, Soul Calibur, etc. Jouer à ça sur clavier, c'est pas la même chose qu'avec les macros qu'on peut avoir sur... Enfin, les habitudes qu'on peut avoir sur une manette. Donc, effectivement, console ou PC, on peut encore se poser cette question-là. Généralement, on va simplifier les choses en disant la console, ça ne sert qu'à ça, donc comme ça, on peut un peu isoler les choses. Un ordinateur, ça sert à plein de choses. L'optimisation hardware et logicielle d'une console battra systématiquement un PC.
Même le plus fort des PC gamers.
Alors, je parle bien d'optimisation. C'est-à-dire que je mets dans le mot optimisation le prix aussi. C'est-à-dire qu'une console à 600€, ce n'est pas le premier prix évidemment, une console à 600€ battra systématiquement...
Mais ce sera équivalent à un PC de 2000 quoi.
Exactement. Enfin, voilà, exactement. Il y a quelques temps, il y a un journaliste qui avait démonté une console, une PS5, pour essayer de voir à quel équivalent on pouvait donner à la carte vidéo. Et en fait, on pouvait la comparer à, grosso modo, une RTX 3070. Une carte graphique Nvidia RTX 3070 qui vaut sur le marché à peu près 300€.
Rien que la carte vidéo. D'accord.
Donc, on voit que la console, c'est en fait une carte vidéo énorme avec des petits accessoires à côté. Mm-hmm. Alors qu'un ordinateur portable, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de... Déjà, il est beaucoup plus polyvalent. Donc, là, on va vraiment se concentrer sur la partie ordinateur portable gamer. Mais en termes d'optimisation, mais c'est du monotâche, la console bat évidemment l'ordinateur portable.
Apple a communiqué il n'y a pas longtemps sur leur puce M3. Ouais. On a l'impression qu'ils veulent revenir justement dans le monde du jeu vidéo avec de la puissance maintenant disponible. Qu'est-ce que tu en penses?
Ils peuvent. En fait, nos tests au labo Fnac, mon collègue Javard Traoré qui teste tous les ordinateurs, les teste cross-platform, que ce soit sous Windows, sous Mac, il les teste de la même manière. Et son protocole de test permet d'évaluer la performance réelle du processeur, mais aussi des puces graphiques, des GPU. Et on voit que, on n'a pas encore reçu les M3, mais en tout cas les M2, tout ce qui est Apple Silicon Processor, en termes de GPU, est pas mal du tout. En fait, ce qui empêche un joueur d'utiliser un Mac pour jouer, c'est principalement l'éditeur de jeu qui n'a pas développé un jeu spécifiquement pour sa plateforme.
C'est ça.
Principal. Parce qu'en termes hardware, c'est une optimisation folle parce qu'en fait, ils maîtrisent absolument tout, Apple. Ils n'ont pas besoin d'agréger une carte mère particulière avec un processeur particulier, avec un OS particulier pour leur puce. Non, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent leur hardware et leur software.
Et c'est pour ça qu'ils sont en mode séduction, finalement, en communiquant beaucoup sur la capacité aujourd'hui d'avoir de la puissance pour le jeu vidéo, pour séduire les développeurs, les studios, pour qu'ils investissent et qu'ils arrivent à sortir leur jeu sur la plateforme macOS.
Ils sont là-dessus parce qu'en plus, on voit bien que la partie jeu, la partie VR avec l'Apple Vision Pro, tout ça, tout ce qui génère en fait, la 3D, il y a un petit truc comme ça qui est en train de se faire, qui est en train de se fabriquer, qui est impressionnant.
Comment vous testez les ordis de gamers en fait, à la FNAC?
C'est justement ce que j'abordais tout à l'heure. En fait, pour pouvoir... Un ordinateur portable, comme tout ordinateur, ça a besoin de puissance de calcul. Donc, on a plein d'outils qui ont été développés en interne pour pouvoir évaluer ça. Donc, on évalue le processeur, mais on évalue également le GPU, le processeur graphique. On va utiliser le logiciel Blender et au travers de Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D, on va dire spécifiquement à Blender... fabrique-moi une terre ou fais-moi un pendule avec du texturé, etc. Et on va regarder combien de temps et quelle est la fluidité
résultat. En fait.
Exactement, du résultat. Et ainsi, on peut, de manière pragmatique, empirique, sans même regarder est-ce que l'ordinateur il est noir avec des trucs fluo rouges, ça on s'en fiche totalement. On va regarder pragmatiquement l'efficacité de tous ces composants-là. Et je rappelle qu'un ordinateur portable gamer, ce n'est pas forcément qu'une seule carte vidéo. Il faut la mémoire vive qui va avec, il faut évidemment la technologie de stockage qui va avec et un écran qui va avec. Les gens qui n'utilisent pas de moniteur externe, ça c'est un tip que je donne. Regardez les moniteurs d'ordinateur portable qui dépassent les 60 Hz. Pourquoi ? Parce qu'avoir une très bonne carte vidéo avec un écran 60 Hz, vous allez avoir en fait du 60 images par seconde. Oui, vous arrivez
parce l'écran ne pourra pas délivrer plus.
Exactement. Donc, il y a beaucoup d'ordinateurs qui délivrent du 144. C'est parmi ceux que je vais vous proposer là. Du 144 Hz, 144 images par seconde. Là, on est vraiment dans quelque chose de confortable.
D'accord.
Surtout pour la fluidité.
Alors, toujours ces étoiles hein, au labo. 4 étoiles, c'est le maxi.
Non, 5 étoiles,
c'est le maxi. 5 étoiles, c'est le maxi. D'accord. Là, alors là, les deux PC que tu nous as, dont tu vas nous parler ont 4 étoiles.
Oui.
C'est compliqué d'avoir un 5 étoiles pour un PC gamer ?
Oui. Alors, on l'assume complètement. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'on teste un ordinateur ? Il y a la partie puissance, mais il y a aussi la partie autonomie. Il y a la qualité d'écran, la qualité audio, etc.
Et l'autonomie sera toujours à la ramasse, quoi.
C'est, alors, on ne veut pas insulter l'avenir. Il peut y avoir un gamer un jour qui nous invente un truc de fou en termes d'autonomie, mais aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas le cas.
Et c'est ça qui fait perdre la cinquième étoile.
Exactement.
C'est l'autonomie.
Et comme en magasin et sur le web, on compare tous les ordinateurs ensemble, on n'a pas de notes spécifiques pour la partie gaming.
Okay.
Donc, c'est pour ça qu'ils perdent une étoile sur la partie gamer. Les meilleurs des ordinateurs gamers là, que je vais vous proposer, il a 6h30 d'autonomie. Ce qui est pour nous un petit peu frustrant de discuter de ça, parce que c'est vrai qu'on sait que peu de gamers utilisent l'ordinateur portable en mode autonome.
Alors, la sélection du Labo Fnac, Lionel, on va se focaliser sur deux modèles. Un, au prix assez élevé, qui est à plus de 1600 euros, et puis un autre en dessous de la barre des 1000 euros.
Ouais,
y a une grosse différence entre les deux ?
Il y a une grosse différence pour les gens extrêmement exigeants. Le gaming, c'est un sujet où, malheureusement, si on se rate, si on choisit le mauvais produit, on ne sera jamais satisfait de jouer sur un produit à 29 images par seconde, 25 images par seconde. Donc, il y a une grosse différence pour les gens très exigeants. Par contre, si vous êtes si vous êtes un joueur et que vous savez manipuler les paramètres, la configuration du jeu pour adapter, optimiser, etc., vous pouvez vous en sortir avec ces deux-là.
Acer Predator Helios, donc, premier choix.
Oui. Dans ce qui est vendu actuellement à la Fnac, que vous pouvez trouver à 1619,99 €, donc c'est le modèle Helios 315-54. En fait, c'est un i7. C'est même pas un 12e génération, c'est un 11e génération, mais qui est vraiment ultra puissant. 16 Go de RAM, du SSD 512 Go et une RTX 3070 avec un écran 144 Hz. Je précise juste cette partie-là sur le stockage. Le stockage, c'est pas anodin. 512 Go.
Ouais, c'est parce que les jeux sont immense en fait.
Ah non, mais de plus en plus avec de la texture, etc. Je prenais un exemple de Flight Simulator. Ils ont fait une mise à jour qui l'a fait réduire, mais il occupait 170 gigas.
Waouh.
170 gigas. Si on a un disque dur de 256 gigas, on est déjà un petit peu asphyxié. Vite, il faut que je trouve de la mémoire. Donc, un excellent produit. On a déjà testé au labo des produits qui étaient vendus à 5 000-6 000 €, qui étaient vraiment très très haut de gamme, mais les références bougent beaucoup. Voilà. Donc,
Là, c'est le Helios 315-54 qui est à 1619 aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il y aura des promos bientôt.
Ouais, Black Friday arrive.
Voilà. Ça fluctue. Mais en tout cas, il a 4 étoiles. On a un budget un peu plus restreint, on va dire. En dessous des 1 000 €, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Le HP Victus 15FB0160NF. Je l'ai choisi à moins de 1 000 € parce que c'était le meilleur rapport qui a été pris qui passait en dessous de ces 1 000 € qui sont un peu symboliques. Alors pareil, lui, ce n'est pas du Intel, c'est du AMD. C'est le AMD Ryzen 5 5600H. Il y a deux fabricants là-dessus, AMD contre Intel et Nvidia contre AMD. Celui-là, c'est un bon rapport qui a été pris avec une puce qui est assez performante de chez AMD, qui est donc la Radeon RX 6500M. Il a un écran à 60 Hz. Donc, ce qui permet un 60 FPS. Mais parce que c'est un écran 60 FPS, la carte graphique ne va pas besoin d'aller pousser sur ses retranchements pour avoir toujours du 60 FPS. Donc, il y a un petit équilibrage qui se fait, qui est peut-être un meilleur rapport qualité-prix que les produits qui peuvent être haut de gamme si on est très, très exigeant. Celui-là, 999 €, on l'a en ce moment. Il y a une offre spéciale à 799. Celui-ci, mais qui est temporaire, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent c'est quoi le budget pour un gamer, etc. La fourchette que j'indique, c'est 600 €. C'est vraiment, j'ai jamais vu un gamer en dessous de 600 €.
C'est compliqué.
C'est très compliqué.
Il y a forcément des choix technologiques qui feront qu'il sera à 600 €.
C'est ça. Stockage, RAM, peut-être qualité d'écran.
Carte
graphique, évidemment, même si c'est le point numéro 1.
Processeur.
C'est un pardon. Enfin, on ne pourra pas changer une carte graphique d'un ordinateur portable gamer.
Mais par exemple, pour un premier ordi gamer, tu vois, pour un ado, voilà, pour Noël, 600 euros, ça peut être le premier, ça peut être cool.
Bah, entre 600 et 700 euros.
Voilà,
je verrai un peu de sécure là-dessus, entre 600 et 700 euros.
Donc celui-là, en promo à 799. Là,
799 en ce moment.
Pas mal, ça.
Donc, alors, il y a bientôt le Black Friday, il y a aussi les offres seconde vie, qui peuvent être aussi intéressantes.
Ouais, intéressant.
On peut se retrouver sur des... Mais voilà, le range, le prix le plus bas, essayez pas de chercher en dessous de 600 euros, vous risquez de vous retrouver quelque chose qui, sur papier, va être bien, mais en fait, dans les faits, pas top.
Sauf, comme tu le disais, dans du reconditionné,
exactement,
où là, on peut peut-être un petit peu baisser.
Exactement.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un nouveau segment qui est en train de sortir, c'est les consoles portables PC Windows.
Hein. Oui.
On en parlait avec Mélina d'Avansoulas il y a quelques semaines de ça. Il y a deux boîtes qui sont là-dessus. Il y a Asus et Lenovo.
Exactement. Donc le Asus ROG Ally Z1 et le Lenovo Legion Go. Lenovo qui a fait un événement il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour la présenter. C'est assez bluffant. Ça marche très bien commercialement. Nous, côté Fnac, on en vend beaucoup, plusieurs milliers par mois.
C'est une grosse Switch, hein, on va dire.
Oui, mais sous Windows 11.
Sous Windows 11.
C'est vraiment un portable. On pourrait imaginer ça un IPC. Donc le truc avec des écrans à peine de 10 pouces. Dopé avec des... c'est pas des GPU, c'est pas des CPU, c'est des APU, Assembled Processor Unit, qui en fait sont complètement optimisés vers le gaming. On va les tester au labo et on va essayer de faire une comparaison de ces deux produits-là. Comment ils se comportent si jamais on devait les comparer à des ordinateurs gamers? C'est des écrans plus petits, donc il y a moins de consommation, mais on veut voir aussi l'autonomie de ces mini-ordinateurs consoles portables. Parce que là, évidemment, c'est portable, c'est fait pour être autonome.
Puis c'est intéressant parce que tu peux brancher un écran, tu peux brancher ça sur la télé, enfin...
Le déporter.
C'est du Windows, donc finalement, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux regarder du Netflix, tu peux bosser même. J'imagine que tu peux rajouter un clavier, hein, non ?
Oui, il y a plein d'accessoires possibles. Ils ne sont pas du tout pensés pour ça, mais pas du tout. Je pense que comme c'est du Windows 11, on peut absolument faire exactement ce qu'on fait sur un PC.
Mais oui.
Mais je pense que si quelqu'un veut faire de la modélisation 3D, ça fonctionnera. Si quelqu'un veut faire du traitement de data, une base de données, etc., c'est peut-être pas l'idéal.
Ouais, c'est pas l'idéal.
Petite chose aussi qui peut justifier certains prix, beaucoup d'ordinateurs gamers, au-delà des claviers mécaniques ou des claviers fluo RGB, etc., vont proposer aussi maintenant des écrans OLED, directement un second écran OLED pour faire en fait de l'à côté du jeu, c'est voir un Twitch, voir un YouTube, etc. Ça peut être justifiant par rapport au prix. On a des prix très chers quand il y a un deuxième écran, mais ce n'est pas le cœur même de la performance en gaming. Donc, il faut vraiment, quand on veut acheter un ordinateur portable gamer, regarder tous ces éléments-là. Je ne veux pas faire trop de proxélétisme, mais allez en magasin, en fait. Allez en magasin pour voir vous-même les produits.
Et puis surtout, allez voir les conseils du Labo Fnac, parce que c'est ça qui est intéressant.
Dans le comparateur, on a vraiment tous ces éléments-là pour vous.
Bien sûr. Et toujours en parfaite autonomie et objectivité. Hein. Rappelons-le encore une fois, il n'y a aucune pression de la part des marques.
Aucune.
C'est ça la force du Labo Fnac. Merci beaucoup Lionel.
Merci François.
Toujours un plaisir de t'accueillir. Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo Fnac, pour terminer ce De quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.